Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur d'avoir accueilli favorablement nos prières et de nous avoir accueillis Seigneur nous-mêmes dans ta présence. Quel bonheur, ô Dieu, de s'attarder devant ta face. Quel bonheur de nous détacher de tout, Seigneur, pour nous jeter à tes pieds et t'adorer, toi le seul, l'unique, le véritable Dieu. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, à ta ressemblance, qui nous a fait, ô Dieu, en ton image. La vie qui nous anime, Seigneur, c'est de toi que nous la tenons. Ta parole déclare que c'est en toi et en toi seul que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Merci de nous la prêter une fois de plus et de nous aider, Seigneur, à demeurer dans cette reconnaissance envers toi pour tout ce que tu es, mais également pour tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun de nous. Merci pour tout. Après ce temps où nous t'avons encensé, Seigneur, avec notre louange, notre adoration, après ce temps où nous avons épanché nos cœurs, Seigneur, devant ta face, nous voulons maintenant nous asseoir devant toi, Seigneur, et t'étendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Notre foi a besoin de grandir. Notre relation a besoin, Seigneur, ô Dieu, de grandir. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous passons plus de temps avec toi, mais aussi dans la mesure où nous nourrissons de ta parole. Alors parle-nous, que cette parole, Seigneur, soit la bienvenue dans nos cœurs, que nous puissions lui réserver un bon accueil, et qu'alors que nous la recevrons, qu'elle puisse accomplir l'œuvre pour laquelle elle sera sortie, Seigneur, de la bouche de ton serviteur, l'œuvre pour laquelle tu nous l'auras envoyé. Car ta parole est tout pour nous. En elle, il y a la vie. En elle, il y a le pardon. En elle, il y a la réconciliation. En elle, il y a la guérison. En elle, il y a la délivrance, la restauration. C'est par elle que tu nous transformes et que tu nous fais ressembler à toi et à toi seul. Merci de déposer maintenant ta parole dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit et au travers de ton serviteur. Merci Seigneur. Amen. Voilà, veuillez vous rasseoir. Dois-je rappeler à chacun de nous que nous sommes le 3 novembre, premier dimanche de ce mois, et nous avons donc devant nous quelques dimanches, quelques semaines, nous avons devant nous plusieurs jours. Et Dieu seul sait ce qui nous attend dans ce mois. Dieu seul sait ce que sera notre prochaine étape dans notre vie de tous les jours. Dieu seul sait dans quelle direction, eh bien, il nous appellera, dans quelle direction nous avancerons. Et c'est justement par rapport à la direction que nous devons prendre que j'aimerais attirer notre attention. Car s'il y a une question qui nous revient souvent, du moins qui préoccupe tous ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur, tous ceux qui veulent marcher avec lui, c'est celle de savoir ce que Dieu attend de nous. Celle de connaître dans quelle direction il m'appelle d'aller. C'est celle de connaître la prochaine étape, car il y a toujours une prochaine étape. Alléluia. La vie, ce n'est pas quelque chose de statique, elle est dynamique. La vie, c'est une marche du temps vers l'éternité. Oui, la vie, elle est appelée à se vivre, à se diriger, à travers les méandres de ce monde. Et puisqu'il en est ainsi, la question que nous pouvons nous poser, que nous allons nous poser, et que certains se posent déjà, est celle de savoir dans quelle direction avancer. Tel est donc notre thème de ce matin. Dans quelle direction dois-je aller vers le nord, puisque je suis en train d'avancer vers le nord? Dois-je continuer ainsi, ou alors tu m'appelles à bifurquer à gauche, voyez, pour aller à l'ouest, ou alors à l'est, ou vers le sud? Tant de questions. Dans quelle direction aller? Dans quelle direction avancer? Et nous allons nous tourner vers un des personnages qui a déjà eu à nous accompagner à plus d'une fois, un des personnages importants que nous, dont la vie nous est décrite dans les évangiles, mais également dans le livre des Actes des apôtres. C'est donc notre ami Pierre, Simon Pierre. Nous allons le rencontrer avec ses amis, là sur la rive de la mer de Galilée. Jean chapitre 21, nous allons lire les 14 premiers versets. Nous sommes au lendemain de la résurrection du Seigneur. Et là, au chapitre 21, à partir du premier verset, la Bible nous dit, « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, ou la mer de Galilée, c'est pareil. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, il devait être jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, donc le disciple Jean, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Évidemment, il avait juste un sous-vêtement. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, donc à peu près 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. C'était là la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Amen. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tous appelés à avancer dans la vie. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tous appelés à aller de l'avant. Vous voyez? Et donc à prendre des décisions pour orienter notre vie d'une manière ou d'une autre. Et en tant que disciples du Seigneur, nous ne devons pas prendre des décisions comme ça à la va-vite, prendre des décisions vaille que vaille, à l'emporte-pièce. Nous devons toujours être sûrs que cette étape que nous voulons franchir est vraiment conforme à la volonté de Dieu. Car la vie, mes amis, ne va jamais de manière linéaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous ne sommes pas sur une autoroute qui va tout droit jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, jusqu'à ce que nous puissions le rencontrer après notre départ de la terre. Non, pas du tout. Vous connaissez tous cette citation française selon laquelle la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Eh oui, aucun fleuve au monde ne va de manière linéaire. Si vous suivez le cours d'un fleuve, prenons le cas du fleuve Congo, il part de sa source dans le Katanga, il remonte, il passe un peu partout dans la province orientale, il descend l'Équateur, il descend, il passe à côté de Kinshasa, et puis il continue sa course jusqu'à se jeter dans la mer. Et donc il en est de la même de la vie. Il en est de même de la vie. La vie ne va jamais en ligne droite, de manière linéaire. Comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Julien Doré, la vie est un parcours semé d'embûches et de surprises agréables ou désagréables. Quelqu'un d'autre a dit que la vie est une montagne à escalader, une montagne à gravir. Et donc il est important de savoir qu'on est vraiment sur la bonne trajectoire qui nous amène au sommet de cette montagne. Oui, l'existence de l'homme n'est pas un long fleuve tranquille. Cette assertion n'est pas seulement valable pour les gens du monde. Elle est aussi pour nous qui sommes en Christ, nous qui appartenons au Seigneur. Quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous nous laissons porter par lui, quand nous avançons dans la vie avec le Seigneur, quand nous le suivons, car il nous appelle à marcher derrière lui, afin d'avoir nos yeux rivés, fixés sur lui. Oui, quand nous marchons, nous suivons le Seigneur, il nous arrive parfois de traverser des moments d'épreuve, des moments difficiles. Nous avons eu des cas de deuil ces derniers temps, et vous êtes peut-être dans la salle, en larmes, parce que vous venez d'apprendre une nouvelle terrible. Oui, dans cette marche avec le Seigneur, nous allons passer par des moments marqués par des périodes difficiles, des périodes où nous aurons l'impression d'être dans un trou noir. Vous savez, quand on est dans un trou noir, on perd complètement le nord, on est désorienté, on ne sait pas où aller, voyez-vous. Mais il y a aussi des moments, gloire au Seigneur, des moments de prospérité, des moments d'accalmie, des moments d'éclaircie, des moments où nous expérimentons le succès, des moments où nous allons de gloire en gloire, alléluia. Nous allons de succès en succès. Mais quelquefois aussi, alors que nous marchons avec le Seigneur, nous nous trouvons comme à la croisée des chemins, ne sachant dans quelle direction avancer. Plusieurs opportunités se trouvent devant nous. Plusieurs possibilités sont là. Vous voyez, il y a tel sentier qui va d'un côté, tel autre chemin qui va de l'autre côté, et puis entre les deux, il y a une petite route. Alors, dans ce cas, lequel prendre? Le sentier, cette route qui nous paraît droite, ou alors, tourner à droite? Dans quelle direction avancer? Dans quelle direction aller? Et c'est là que nous nous posons cette question qui est souvent pertinente. Seigneur, que veux-tu? Que dois-je faire? Seigneur, où aller? Il y a plusieurs opportunités. Tu m'as conduit jusque-là. Jusque-là, les instructions étaient claires. Jusque-là, eh bien, c'était l'éclaircie. Mais maintenant, je me trouve ici, je ne sais plus quoi faire, dans quelle direction aller. Où veux-tu que j'aille? Eh bien, à cette question, le Seigneur répond quelquefois de manière claire, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul. Rappelez-vous, là sur le chemin de Damas, alors qu'il avait reçu l'ordre de la part des chefs religieux de Jérusalem d'aller à Damas pour arrêter tous ces juifs qui se détournaient du judaïsme pour embrasser une nouvelle religion, celle du Christ, aller arrêter, persécuter tous ces juifs, mes amis, qui tournaient le dos à des traditions, aux traditions de leurs ancêtres, pour croire que Jésus était le Messie, que celui qui les attendait, oui, alors qu'il était en route, alors qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, Eh bien, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière le projette par terre. L'homme est complètement aveuglé. Il est ébloui par l'intensité de cette lumière. Il va d'ailleurs, devenir aveugle pendant un temps. Il ne va plus voir, il va se laisser diriger par les gens qui l'accompagnaient. Et alors qu'il est là par terre, complètement obnubilé par cette lumière, éblui par cette lumière extraordinaire, il entend une voix qui l'appelle Shaoul, son nom en araméen, car c'était la langue qui était parlée à l'époque par les Juifs, à l'époque du Seigneur. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Il te serait dur de ne pas obéir. Alors, Saul, qui deviendra plus tard Paul, répond. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Et puis il ajoute, puisque c'est toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Tu viens de te révéler à moi. J'allais tout droit. Je savais où j'allais. Les instructions étaient claires. Pas aller à Tyr, pas aller à Sidon sur le littoral méditerranéen, mais à Damas, avec l'ordre d'accomplir la mission reçue de la part des chefs, de nos chefs religieux. Mais maintenant que tu m'arrêtes dans cette folie, maintenant que tu m'arrêtes dans cette œuvre de destruction, que veux-tu que je fasse? Eh bien, le Seigneur va être très clair. Voyez-vous, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, donc Damas, et l'on te dira ce que tu dois faire. C'est très clair. Alors il demande à ses amis de l'accompagner jusqu'à Damas. Il aurait pu dire à ses amis, écoutez, je ne vois plus rien, je ne sais plus ce qui m'arrive, et tout ça, j'ai entendu une voix, etc. Ça serait mieux que nous retournions à Jérusalem. Non, la voix est très claire. Entre dans la ville. Et là, dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc la prochaine étape pour Saül, la direction dans laquelle il devait aller, c'était quoi? C'était Damas, voyez-vous. Oui, ça peut arriver que le Seigneur nous donne des instructions très claires, qu'il nous montre la direction dans laquelle nous devons avancer, qu'il nous montre ce que nous devons faire, ce qu'il attend de nous, qu'il nous montre ce que sera la prochaine étape. Gloire à Dieu. Mais parfois c'est le silence, silence radio de la part du Seigneur. Alors dans ces cas, que faire? On avançait. Tout d'un coup, on ne sait plus quoi faire. On a l'impression que, la lumière qui nous éclairait, le chemin sur lequel nous étions, tout d'un coup, disparaît. Alors dans ce cas, que faire? On est donc là à se poser des questions. Maintenant que je suis là, quelle sera la prochaine étape? C'est une question tout à fait normale. Nous sommes des êtres irrationnels. Et lorsque nous sommes confrontés à une situation, quelle qu'elle soit, nous nous posons des questions, n'est-ce pas? Des bonnes questions pour arriver à des bonnes réponses. Nous voulons savoir dans quelle direction nous devons partir, voyez-vous? Et souvent, on ne reçoit aucune directive. C'est peut-être ton cas. Tu pries, tu jeûnes, mais tu as l'impression que, le flou demeure. Sans aucune instruction du Seigneur, dois-tu rester là, bras croisés, là, à la croisée de chemin, en attendant que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, te dise quoi? Que faire? Doit-on rester immobile? Lorsqu'on est dans ce cas de figure, où se laissant le silence total, il nous a conduits jusque-là. Il nous a donné ce travail. Et puis voilà, depuis quelque temps, il y a cet appel. Maintenant, dois-je Laisser tout de suite le travail répondre à l'appel? Ou alors dois-je continuer avec le travail jusqu'à ce qu'à un moment tu me dises c'est maintenant le moment d'arrêter? Vous voyez, ce sont des questions pertinentes. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Vous êtes merveilleux. Vous êtes formidable. Alléluia. Et gloire à Dieu. Voyez? Où devons-nous aller? Eh bien, telle a été la situation dans laquelle Pierre, encore lui, et ses amis se sont trouvés au lendemain de la résurrection du Seigneur. C'est ce qui leur est arrivé, à lui Pierre, encore lui, et à ses amis. Il s'est trouvé dans cette situation où il ne savait quoi faire, où il ne savait pas dans quelle direction aller. Il ne savait pas ce que Dieu attendait de lui, ce que le Seigneur attendait de lui. Il est dans une sorte d'attente par rapport à ce que le Seigneur attendait de lui. Et dans cette situation-là, comme pour beaucoup d'entre nous, quand on est dans cette situation, on se pose des questions, on ne sait pas exactement ce que le Seigneur attend de nous. Eh bien, c'est notre patience qui est mise à l'épreuve, oui ou non? Oui, parce que la vie ne s'arrête pas. Elle s'arrête à la mort, et puis ensuite, elle se poursuit dans l'éternité. Et donc, quand on dit qu'on s'arrête, c'est une manière d'exprimer que voilà, mais nous continuons comme à aller dans la même direction. Ou alors, nous nous arrêtons, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça. Voilà. Il faut que quelque part on prenne une décision. Il faut qu'on fasse un pas en arrière. Il faut qu'on fasse un pas à gauche ou à droite. Voyez-vous, que veux-tu que je fasse? Où suis-je censé aller? Voilà la situation dans laquelle Pierre et ses amis se sont trouvés. Nous allons maintenant analyser la scène pour mieux comprendre combien ça a été très difficile pour eux. Rappelons-nous que le Seigneur est ressuscité le premier jour, c'est un dimanche comme aujourd'hui. Et au soir, Pierre, avec ses amis, s'était enfermé dans une maison par crainte de Juifs. Ils se sont dit, maintenant qu'ils l'ont cloué à la croix, maintenant qu'il est mort, il a été mis dans le sépulcre. Certes, les femmes sont venues nous dire, Marie-Madeleine en particulier, qu'il était ressuscité, mais sans plus. Voilà. Pierre avait savait, et il avait expérimenté cela, que le tombeau était vide. Mais le simple fait que le tombeau est vide n'était pas un élément suffisant que Jésus était véritablement ressuscité. Voyez. Jean aussi avait vu ce tombeau, avec tous les détails que vous pouvez trouver dans Jean 20. Voyez. Et donc, eux tous savaient que les femmes avaient ce témoignage-là. Et voilà qu'au soir du premier jour, au soir, ils sont enfermés par peur de Juifs. Et tout d'un coup, Jésus vint alors que tout était fermé. Le Seigneur arrive, nous sommes dans Jean 20, versets 19 à 23. Le voilà qui leur apparaît, le Fils de l'homme, là au milieu d'eux. Et il leur parle. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et après leur avoir dit cela, il leur montra ses mains avec les traces des clous, les stigmates. Il leur montra son côté. Oh, alléluia. Et gloire au Seigneur. Il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Et il ajoute au verset 21, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Ah, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais il les envoie où? Mettez-vous à la place des disciples. Mettez-vous à la place de Pierre. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Seigneur disparaît. Les voilà. La joie est là, ils sont contents qu'il est vraiment ressuscité. Nous l'avons vu, nous avons vu les marques des clous, Nous avons vu la marque dans son côté, puisque on lui avait percé le côté. Nous avons vu tout cela, ils sont très sûrs. 8 jours plus tard, regardez la chronologie, hein. 8 jours plus tard, eh bien, ils se sont retrouvés de nouveau enfermés. Donc c'est la preuve que, il a dit, je vous envoie, mais allons où? Ils sont du côté de la Galilée. Devons-nous retourner à Jérusalem, mais pour faire quoi? Devons-nous rester en Galilée, mais encore Galilée, aller à Cana, aller à Nazareth, aller quelque part? Ils se retrouvent de nouveau enfermés, ne sachant pas dans quelle direction ils devaient aller. Ne sachant pas quelle est la prochaine étape. Nous l'avons vu, certes, il a vaincu la mort. Et 8 jours plus tard, ils sont de nouveau dans la maison. La première fois, il y a un disciple qui manquait. C'était Thomas. Et puis les autres vont dire à Thomas, « Eh bien, le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous l'avons vu. » Thomas leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » En d'autres mots, moi aussi je dois le voir. Pour croire. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et puis, comme la première fois, 8 jours avant, alors qu'ils étaient enfermés, le Seigneur leur apparaît. De nouveau, il se tient au milieu. Il leur dit que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la peur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la crainte. Alors même qu'il est ressuscité, mais ils n'étaient pas complètement rassurés. C'est ainsi qu'à chaque fois, ils leur demandent, ils leur disent que la paix soit avec vous. Ne vous agitez pas, ne soyez pas troublés. Je suis là, j'ai marché avec vous, certes, avant ma mort. Maintenant, je suis ressuscité, je suis encore là. Alléluia. Il se tourne vers Thomas et il dit, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Crois. Sur ce, Thomas va faire cette proclamation extraordinaire. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et le Seigneur disparaît. Et là, nous arrivons au chapitre 21. Après cela, aucune direction. Où aller? Quelle est la prochaine étape? Il nous a dit, je vous envoie. Nous l'avons vu. Et c'est alors que Simon-Pierre, il avait toujours des initiatives, lui. Simon-Pierre s'adresse aux 6 autres, ils étaient à 7. Il leur dit, je vais pêcher. Et les 6 autres lui disent, nous aussi, nous allons aller avec toi. Sur ce, les 7 sont descendus vers la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Ils ont pris les filets, ils sont montés à bord de la barque et les voilà à la recherche de poissons. Je vais pêcher. Pêcher quoi? Nous pourrions nous poser la question. Jean et Jacques, qui auparavant étaient des associés de Pierre. Ils avaient une entreprise de pêche. Ils étaient associés. Ils auraient pu se dire, tiens, je vais pêcher. Ah, peut-être pêcher les hommes. Rappelez-vous. Rappelez-vous, dans Marc chapitre 1er, quand le Seigneur appelle Simon-Pierre et son frère André, la Bible nous dit qu'ils jetaient leur filet dans la mer. Et là, le Seigneur passe, il s'adresse à eux, Marc 1, chapitre 1, 16 à 17. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Voilà maintenant qu'il nous dit, puisqu'on a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, Jean Jacques pouvait se rappeler de tout ça, parce que là même, après avoir dit, appelé Simon et son frère André, plus tard, en continuant le long de ce même rivage, il va appeler Jacques et Jean. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils auraient pu se dire, ah mais c'est tant mieux, hein. C'est peut-être aller chercher les âmes, non? Pierre partait pour pêcher du poisson dans la mer de Galilée. Pierre ne savait que faire. Eux tous d'ailleurs. Où aller? Eh bien, faisons ce que nous avons toujours fait. C'est une voie sur laquelle nous étions. C'est sur cette voie que le Seigneur nous avait appelés. Alors, faisons cela. Pour Pierre, il devait absolument bouger. Car, comme vous le savez, les dernières semaines avaient été terriblement et incroyablement intenses en émotion pour l'apôtre Pierre. Il avait assisté à l'humiliation de son maître, là au jardin de Gethsémané, quand ils sont venus l'arrêter. Il avait même voulu le défendre en arrachant l'oreille d'un serviteur du sacrificateur, Malchus, l'oreille de Malchus. Et sur ce, le Seigneur l'avait repris et il avait opéré un miracle, il avait recollé l'oreille. Il avait assisté à tout ça. Comment il avait été traîné jusque dans la cour du souverain sacrificateur, etc. Donc il avait assisté à cette humiliation. Et puis ensuite, il avait renié le Seigneur. Alors même que le Seigneur lui avait dit, Pierre, avant que le coq ne chante trois fois, tu m'auras renié. Donc il avait renié. Et puis il y a eu le cauchemar de la crucifixion. Quelle tragédie, même pour eux. De voir celui qu'on a tant aimé, celui pour lequel on a tout abandonné, le voir pendu entre ciel et terre, avec du sang partout, le voir humilié autant. Donc c'était des moments, des jours, une période très difficile pour Pierre et pour les autres. Et puis ensuite, et gloire à Dieu, il y a eu cet extraordinaire miracle de la résurrection. Il leur apparaît à deux reprises, et puis sans plus, ils se retrouvent seuls. Les voilà donc assis, en compagnie de Thomas, de Nathanaël, de Jacques et Jean, et de deux autres disciples. Ils étaient là en attente. Mais au fait, ils attendaient quoi? Que le Seigneur leur parle, leur montre. Ils étaient en attente. Ne sachant où aller. Voyez-vous, où aller? Devait-il rester dans cette posture jusqu'à ce que par un miracle, le Seigneur vienne susurrer à leur oreille ce qu'ils devaient faire ou quoi? Et c'est donc dans cette attente-là que nous le retrouvons. Et puis à un moment, Pierre dit, moi je vais aller pêcher. Ils sont désorientés. Mes amis, Jésus n'est pas là. Autrefois, quand lui était là, il était leur boussole, n'est-ce pas? C'est lui qui fixait le cap. Ils avaient des familles, ils se réveillaient le matin, ils se préparaient, ils disaient au revoir après avoir pris un petit déjeuner avec la famille, et puis ils allaient rejoindre le Seigneur. Et en rejoignant le Seigneur, eh bien, c'est lui qui les dirigeait, c'est lui qui le conduisait. Ils savaient exactement. Tant que le Seigneur était avec eux, ils savaient exactement où ils devaient être. Voyez-vous, même s'ils ne pouvaient pas s'imaginer d'avance ou à l'avance où ils devaient aller, mais une chose était sûre, c'est qu'avec lui, ben, nous allons où il nous conduira. Alléluia. Et donc, c'était sûr, mais cette fois-ci, il leur a apparu deux fois, mais il n'est pas là. C'est le silence total. Que faire? Où aller? Pour revenir encore à Pierre, dans le passé, cet homme savait toujours ce qu'il devait faire. C'était un pêcheur professionnel, n'est-ce pas? Eh bien, quand il s'est réveillé le matin, il préparait les filets, il apprêtait la barque, il allait pêcher, il ramenait le poisson, il allait le vendre au marché. Même si, évidemment, c'était un travail très difficile. Pierre savait ce qu'on attendait de lui. Quand il partait, son épouse savait qu'au retour, il ramènerait quelque chose. Les enfants savaient que papa est parti à la pêche. Voyez-vous? Il avait donc quelque part une certaine maîtrise sur sa vie. Il orientait comme il voulait. Et voilà que Jésus passe par là. Tout change. Tout change. Désormais, il ne fait plus ce qu'il veut. Désormais, il ne va plus là où il veut. Désormais, il suit le Seigneur partout où il va. Mais voilà qu'il se retrouve au chapitre 21, ne sachant où aller. Et c'est alors qu'il leur dit, « Je vais pêcher. » C'est tout ce qu'il savait faire. Voyez-vous? Il va faire le travail. Il continue le travail qu'il faisait quand le Seigneur l'avait appelé. Oh, alléluia! Aller à la pêche. Quelle leçon importante. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a la conviction que le Seigneur l'appelle, il abandonne tout. On a vu des étudiants arrêter net leurs études parce que le Seigneur les avait appelés. Voilà. Comme si Dieu n'aurait pas pu attendre qu'ils terminent leurs études. Au lieu de continuer jusqu'à ce que, à l'étape suivante, enfin ils le rencontrent dans leur vocation, non, on arrête tout. Voyez-vous? Mes amis, Pierre, avec ses amis, sont partis. Et c'est là, après avoir travaillé toute la nuit, n'ayant rien pris. Ils ont jeté le filet à gauche, rien. Ils l'ont jeté à droite, rien. Ils ont déplacé la barque, rien. Ils ont jeté les filets un peu plus profondément, rien. Un peu plus loin, rien. Où sont les poissons? Nulle part. Une nuit épuisante, une nuit cauchemardesque, voyez? Ils se sont sentis terriblement seuls, voyez, jusqu'à ce que le matin arrive, jusqu'à ce que le jour se lève. Et là, au matin, avec l'arrivée du jour, ils entendent une voix. Cette voix leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondent, « Non. » Peut-être qu'ils avaient trouvé cette question fort agaçante. Vous n'avez pas à manger? Et quelqu'un vous... Vous avez à manger? Ils disent non. Alors le Seigneur, sans savoir que c'était le Seigneur poursuit, continue en leur disant, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous trouverez. Il n'avait pas reconnu sa voix. Mais vous savez, dans le désespoir, on est prêt à suivre même le conseil de votre jardinier. Dans le désespoir, vous êtes prêt à entendre n'importe qui. Votre chauffeur vous dit, non, patron, moi je crois que dans cette situation, ah oui, Simon, tu as raison. Vous voyez? Voilà. Jetez. Et quand il jette, mes amis, ils attrapent beaucoup de poissons. Mais cette instruction-là, jeter le filet dans une direction bien précise, eh bien cette instruction-là leur était familière. Rappelez-vous dans Luc chapitre 5, le Seigneur avait dit à Simon-Pierre,
avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Ils avaient obéi, et résultat, ils avaient attrapé une grande quantité de poissons. Et là, cette instruction-là leur est familière. Ça leur a rappelé cette expérience-là. Ils ont jeté, et résultat, eh bien, le miracle a lieu. Et là, Jean reconnaît le Seigneur. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Évidemment, il se rhabille, il saute dans l'eau, il se rhabille, et puis, eux tous vont aller sur le rivage. Et quand ils arrivent sur le rivage, que trouvent-ils? Ils trouvent un brasier allumé. Ils trouvent du poisson sur le brasier. Et à côté, il y a du pain. Oh, alléluia! Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur pourvoit toujours. Alléluia. Après une nuit terrible, les voilà consolés. Les voilà qui prennent un petit déjeuner copieux, préparé par le Seigneur lui-même. Lui n'avait pas besoin d'aller pêcher. Il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Comment ce poisson qui était sur le brasier est-il arrivé là-dessus? Eh bien, il reste le maître de toutes les circonstances. Même là où nous nous disons ici, il n'y a plus rien à faire, avec lui, il y a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Ils vont manger. C'est après ce repas, si vous continuez la suite, que le Seigneur va cette fois-ci donner des instructions claires à Pierre pour la suite des événements. Versets 15 à 19, quand tu lui poses à trois reprises, « Pierre, m'aimes-tu? Simon Pierre, m'aimes-tu? » Et à chaque fois, il répond, « Je t'aime. » Le Seigneur lui donne cette fois-ci des instructions claires. « Prends soin de mes agneaux. Sois le berger de mes brebis. » Et enfin, « Prends soin de mes brebis. » Maintenant, les choses sont claires. Voyez-vous? Alors, essayons de dégager, on n'a pas beaucoup de temps, on va parler juste de deux principes que nous trouvons dans cette histoire. Le premier principe, c'est que, mes amis, attendre Jésus, quel que soit le besoin dans lequel nous nous trouvons, est une expérience habituelle chez les disciples. Nous vivons toujours avec cette attente de voir le Seigneur intervenir d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous attendons une direction, voyez-vous? Mais cette attente ne veut pas dire que nous laissons tout pour aller attendre la direction quelque part. Non, cela veut dire que nous continuons dans la direction où nous sommes jusqu'à ce que nous le rencontrions et qu'il nous donne des directives claires de sa part. Parfois, nous sommes prisonniers d'une situation difficile, une situation qui nous dépasse, et nous attendons la délivrance. Nous ne savons pas quand est-ce que nous serons délivrés de cette situation. Mais lui sait. Eh bien, nous attendons. Dans notre vie, nous aurons toujours à attendre d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous attendons de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Rappelez-vous du même Pierre. Lors du lavement des pieds, quand le Seigneur, après avoir lavé les pieds des autres, arrive, on a parlé de ça, hein, rappelez-vous, la difficulté que nous éprouvons lorsque nous cherchons à comprendre, mes amis, la volonté de Dieu, ce que Dieu est en train de faire pour notre vie et dans notre vie. Pierre lui avait dit, non, Seigneur, ce n'est pas toi qui laverais mes pieds. Qu'est-ce que le Seigneur lui dira? Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le sais pas. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Et quelquefois, nous essayons de comprendre comment expliquer cette situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comment vas-tu te glorifier dans cette situation qui me paraît être une situation d'humiliation? Voyez-vous? Et là, il nous dit, ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Parfois, nous attendons à ce qu'il pourvoie nos besoins. Nous prions. Et ce qui est terrible, c'est que quand nous prions, nous voulons que le Seigneur réponde immédiatement. Illico presto. On lui a adressé la prière, maintenant on attend. Voilà. Que la solution vienne d'un moment à l'autre. Vous voyez? Parce que nous sommes des natures impatientes. Vous voyez? Nous ne voulons pas trop attendre. Oublions, mes amis, que le timing et les objectifs du Seigneur ne sont pas toujours clairs pour nous. Pour les disciples, ce n'était pas très clair. Mais bon, ils sont passés à l'autre étape. C'est qu'ils faisaient toujours, il n'y avait pas de péché à faire le travail qu'ils faisaient. Et c'est là, en faisant ces pas-là, que le Seigneur va les rencontrer. Et que pour Pierre, les choses deviendront très claires. Mes amis, le Seigneur désire que notre foi repose sur le socle inébranlable de sa parole et non pas sur le sable mouvant des événements. Peu importe les événements, il veut que nous restions fermes, que nous continuions à nous asseoir, à nous appuyer sur sa parole. Alléluia. Et avant de terminer, puisque nous continuerons plus tard, voilà la première chose, c'est que nous vivrons toujours avec des attentes. Et lui seul connaît exactement le temps que notre attente prendra. Le fait d'attendre que le Seigneur intervienne fait partie de l'expérience chrétienne. Rappelez-vous, de même disciples, dans le livre des Actes, le Seigneur leur a dit, il leur a dit ceci, ne partez pas. Il leur a donné cette recommandation de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Nous aurons toujours des attentes, voyez-vous, et c'est dans ce moment d'attente que le Seigneur forge notre caractère. Alléluia. C'est dans ce moment d'attente, mes amis, que lui, en divin potier, il nous modèle, il nous façonne. Alléluia. Et puis le jour venu, il vient à notre rencontre et il pourvoit nos besoins. Alléluia. Et gloire au Seigneur. La deuxième chose, le deuxième principe que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que lorsque nous ne savons pas dans quelle direction avancer, lorsque nous ne savons pas dans quelle direction aller, eh bien, ce qu'il faut faire, il faut seulement faire le pas suivant. Alléluia. Fais le pas suivant, là où tu es. N'attends pas des prophéties. Oui, il peut nous parler en prophétie. Fais le pas suivant. Oh, alléluia. Le pas suivant. Voilà ce qu'il attend de nous. Il y a une dame, une chrétienne, qui a beaucoup écrit, qui a été conférencière, qui a été femme chrétienne. D'ailleurs, c'est elle qui a parlé de faire le pas. Le pas suivant, Elliot, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, Elliot et Elisabeth, cette femme avec son mari était partie en mission en Équateur pour prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés dans une tribu pour être en contact avec eux, leur apporter l'évangile. Et malheureusement, les gens, malheureusement, enfin, vous savez, avec le Seigneur, cette tribu, les gens de cette tribu vont le tuer. C'est ainsi qu'Elisabeth Elliot va se retrouver veuve. Mais elle va continuer le travail missionnaire. Elle va traduire la Bible. Elle va écrire. Elle est d'ailleurs décédée, je crois, en 2015. Elle est née dans les années 20. Vous voyez ? Elle a vécu. Elle est restée. Elle a fait ce pas-là. Et le Seigneur a fait le reste. Et donc, quand tu ne sais plus aller, où aller? Fais seulement le pas suivant. Alléluia. Ils ont fait le pas suivant. C'est exactement ce que le Seigneur attendait d'eux. Car là, sur le rivage, il est venu à leur rencontre. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Ces hommes n'avaient pas reçu des directions claires. Voyez-vous, ils n'auraient rien reçu s'ils étaient seulement enfermés là-bas en disant, voilà, il nous est apparu à deux reprises, nous attendons. Mais ils ont dit, écoutez, faisons le pas suivant, C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons toujours fait? Quel est notre travail? Eh bien, je poursuis mon travail. Alléluia! Jusqu'à ce qu'il me rencontre et qu'il me donne maintenant des instructions claires. Alléluia! Alors, Dieu t'appelait, tu travailles. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner. Tout de suite, tu tournes le dos parce que tu vois que être pasteur aujourd'hui, est synonyme de promotion sociale. Tu veux aussi rouler dans une Jeep, tu veux aussi t'habiller comme ça, etc. Et le travail que tu as, oui, mais c'est peu, peut-être en devenant, je vais recevoir tout de suite l'appel et je passe à l'action. Non. On a vu des gens précipiter les choses alors qu'ils auraient pu faire le pas suivant. Là où ils étaient. C'est seulement ce pas-là qui leur aurait ouvert la porte. Et là, ils auraient reçu des instructions claires, comme pour Pierre. Sois le berger de mes brebis. Sois, prends soin de mon troupeau. Vous voyez? Ah non, Dieu m'a appelé. Pour certains, je vais vous dire une chose. Je suis certain. Pour certains, le fait d'avoir abandonné les études, soi-disant Dieu les a appelés, c'était simplement qu'à un moment, ils n'en pouvaient plus. Ils ont été dépassés. Alors, ils ont trouvé cette excuse d'appel divin pour convaincre les parents. D'ailleurs, Dieu m'a appelé. Voilà. Dieu m'a appelé, j'arrête avec mes études d'économie, je vais le servir. Voyez? Dieu m'a appelé, j'arrête avec mes études d'ingénieur ou je ne sais de médecine. Je vais aller les servir. Et beaucoup ont précipité les choses. Et plus tard, je suis convaincu que certains l'ont regretté. Voyez-vous? Ils ont cru que s'ils n'avaient pas répondu tout de suite à l'appel du Seigneur, il n'y aurait pas eu des âmes gagnées. Non! Aucun n'est indispensable. Continue jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Alléluia! Les parents ont payé les études. Vas-y, Dieu n'est pas contre un diplôme. Fais le pas après. Il sait qu'avec ce diplôme, alors les portes s'ouvriront. Voilà. Avec ce diplôme, alors tu sauras, tu recevras des instructions claires. Au lieu de se persuader en disant que Dieu m'a appelé, c'est en faisant le pas suivant. Que le Seigneur est venu à leur rencontre. Et là, ils vont vivre des choses extraordinaires. Et pour Pierre, puisque celui qui nous intéresse, c'est là sur le rivage qui va être réhabilité. Voyez-vous, c'est là sur le rivage de la mer de Galilée qu'il va donc recevoir cette fois-ci et enfin, des instructions claires. Et le Seigneur le lui dira à trois reprises. Et après ça, nous allons le retrouver chapitre 1er du livre des Actes, avec les autres, avec le Seigneur, et c'est là qu'il va leur dire, écoutez, eh bien, ne partez pas tout de suite, attendez jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse. Ici, les instructions sont claires. Et même en leur disant ça, il ne leur a pas dit que voilà, votre attente durera autant de jours. Non. Ils sont restés dans cette attente, mais alors une attente dynamique, parce qu'ils priaient. Parce qu'il suppliait, parce qu'il disait, Seigneur, c'est toi qui nous as demandé d'attendre. Eh bien, nous attendons. Mais nous attendons en priant. Nous attendons en cherchant ta face. Alors, dans quelle direction aller? Alors qu'on n'a pas reçu des directives claires, eh bien, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être dans cette attitude d'attente. Et puis, c'est une attente dynamique qui ne consiste pas à tout laisser, à rester à la maison et attendre à ce que quelqu'un vienne vous chercher. Tiens, nous avons besoin d'un pasteur, venez, nous allons vous donner du travail. Non, c'est une attente dynamique, c'est-à-dire, je fais le pas suivant. C'est-à-dire, je demeure sur la voie sur laquelle il m'a appelé, jusqu'à ce que sur cette voie, il vienne à ma rencontre et qu'il me dise, enfin, je t'appelle. J'ai vécu ça dans ma propre vie professionnelle. Il m'avait appelé, je le savais, tout le monde me le disait, mais je n'ai pas voulu précipiter les choses. J'ai attendu jusqu'au bout. Et enfin, lorsque le moment est venu, j'avais, mes amis, toute l'assurance que c'était le moment où je devais aller pour la formation. Alléluia! Un moment où je devais me mettre à part avec lui pour lui donner l'occasion de me façonner afin de me préparer pour l'œuvre à laquelle il m'avait appelé. Amen. Acclamons son nom. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de nous aider à comprendre que marcher avec toi, c'est entrer dans une vie d'attente par rapport à toi. C'est entrer dans une vie, Seigneur, où nous recevrons certes de temps à autre des directives claires par rapport à ta volonté pour nos vies, des directives claires concernant la direction dans laquelle nous devons avancer. Mais il y aura aussi des moments, Seigneur, où nous serons comme plongés dans un flou total, où nous serons comme, oh Dieu, nous ferons face à un mur de silence. Et lorsque cela arrivera, que nous apprenions, Seigneur, à attendre, non pas en laissant tout, en nous asseyant et à attendre une voix prophétique qui viendrait je ne sais où, mais plutôt en faisant le pan suivant, en demeurant et en continuant, Seigneur, à accomplir ce que, Seigneur, nous faisions auparavant, jusqu'à ce que tu nous rencontres et que les choses deviennent beaucoup plus claires pour nous. Merci de nous aider dans ce domaine-là. Merci pour tout. Merci également de bénir ces moments réservés aux offrandes, aux dîmes. Quelle grâce, Seigneur, pour nous de te donner ce que nous avons préparé pour l'avancement de ton œuvre, mais aussi pour la manifestation de ton règne, Seigneur, ici et au travers de ton Église. Merci pour tout. Aide-nous à donner avec joie, Seigneur, sans murmurer, car tu aimes celui qui donne, Seigneur, de tout son cœur et avec joie. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur.